Il est 8h10, soyez les bienvenus sur RCF et Radio Notre-Dame si vous venez de nous rejoindre. Dans 20 minutes, le journal de Radio Vatican. Mais avant cela, j'accueille l'invité de la matinale, Sadek Belousif, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes membre du FORIF, le Forum de l'Islam de France, professeur de médecine, chef de service d'anesthésie-réanimation à l'hôpital Avicenne à Bobigny, président de l'association L'Islam au 21e siècle. Le ramadan va commencer samedi pour les musulmans. C'est un mois de prière et de jeûne. Il y a toujours un doute sur la date du début du ramadan qui commence donc samedi. Pourquoi ? Comment est fixée la date du début du ramadan ?
La date, elle est fixée en responsabilité, vous savez, parce que finalement, il y a deux grandes écoles. La première, c'est avec le calcul astronomique. On connaît exactement les mouvements et l'apparition de la Lune 450 ans à l'avance. Donc ça, c'est la partie astronomique. Et puis aussi, il y a l'observation humble du groupe familial ou du village qui va voir est-ce que le premier croissant de lune apparaît ou pas. Et donc je trouve que en France, on a une sorte d'association des deux, c'est-à-dire que le calcul astronomique va nous dire, bah tiens, c'est peut-être jeudi soir ou vendredi soir ou samedi soir, et le fait d'aller ensemble pour voir ce premier croissant, ça engage sa propre responsabilité.
Est-ce à dire que la date du début du ramadan n'est pas la même selon qu'on se trouve là en France ou ailleurs dans le monde ?
Absolument, parce qu'il y a une sorte de déclinaison de l'Est à l'Ouest, et parfois ça peut même être une question politique.
Une question politique. Alors justement, le mois de prière du ramadan est important, particulièrement cette année, dans un contexte tendu sur le plan géopolitique. La guerre au Moyen-Orient, les tensions avec l'Algérie, les questions sur l'islam de France aussi. Comment vous abordez ce temps d'introspection spirituelle dans ce contexte ?
Eh bien, il est bon de pouvoir lever le porte-plume un moment, c'est-à-dire que ça peut être l'équivalent du carême chez les chrétiens, ou une sorte de shabbat spirituel. L'idée, c'est de faire la pause et de se retrouver entre amis, réfléchir, penser au plus humble, au plus démuni, au plus vulnérable, celui qui a faim, non pas parce qu'il jeûne, mais parce qu'il en est privé. Donc ça nous rapproche de lui en immanence, et donc ça me rapproche du Créateur.
Ça nous rapproche du Créateur. Cette année, le ramadan tombe justement au même moment que le carême pour les chrétiens, qui commence le 5 mars prochain, avec le mercredi des cendres. Régulièrement, le pape appelle au dialogue et à la prière interreligieuse. Est-ce qu'elle est plus que jamais essentielle ?
Elle est essentielle parce que, vous savez, on a eu la réunion du FORIF la semaine dernière, et en conclusion, Bruno Retailleau avait cité Peggy en disant « tout ce qui élève unit ». Tout ce qui élève unit. On peut aussi renverser la phrase, tout ce qui unit élève. Le fait d'être en fraternité avec les frères chrétiens, effectivement, ce mois-ci, on va avoir de belles rencontres en perspective.
Est-ce qu'il y a des moments de prière qui sont prévus ensemble ? Régulièrement, des chrétiens viennent participer à la rupture du jeûne avec des musulmans viennent participer à des prières interreligieuses pendant le carême. Est-ce que ça va se vérifier cette année encore ?
Tout à fait, c'est ce que nous faisons de manière quasi systématique à la Grande Mosquée de Paris. Il y a des iftars, il y a des ruptures de jeûne avec les autres religions, bien sûr. Il y a aussi un groupe qui m'est cher, qui est le GAIC, le groupe d'amitié islamo-chrétien, où, classiquement, on se réunit, effectivement, à partager le pain, pas le vin, mais à partager le pain, et en fait, partager la foi. On n'est pas dans de l'œcuménisme bénet ou béat, on est plutôt dans comment est-ce que je pense ce que je pense, comment est-ce que tu penses ce que tu penses, et comment est-ce que, qu'est-ce que ta foi m'apprend sur ma foi.
Mais quels sont les fruits de cela ? Si chacun vient avec sa foi sans désir de se convertir, et c'est bien légitime, quelle que soit la foi, quelle que soit sa religion, qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça génère d'intelligent, de positif pour notre société, et la foi de chacun aussi ?
Ce que ça produit, c'est de la fraternité, parce que si nous sommes frères, c'est que nous avons le même père, ou parce que nous avons le même père, nous sommes frères. Il y a un verset du Coran fameux qui disait « Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une communauté unique, mais il voulait vous éprouver en ses bienfaits. Un jour, vous aurez la connaissance. » Enfin, il a fait ça, donc ça veut dire que, un, il y a une diversité qui est voulue, et que, deux, il faut aller à la connaissance et à la recherche de l'autre. Finalement, c'est une forme de déclinaison de Babel.
Eh bien, très bien, on vivra cela évidemment pendant le Ramadan et le Carême cette année qui coïncide en termes de calendrier. Sur l'Islam de France, Sadek Belousif, le Forif, le Forum de l'Islam de France, la nouvelle instance de dialogue entre l'État et le culte musulman, a donc été reçue la semaine dernière, place Beauvau, par le ministre de l'Intérieur pour une session de travail. Où en est la relation entre l'État et les musulmans de France? C'est quand même plus de 3 millions de personnes. Comment sont les relations entre votre religion et l'État français?
Les relations, elles sont fluides. On a envie de dire parce qu'il n'y en a pas, ou alors il y en a de manière apaisée. Il n'y en a pas au sens où, depuis la loi 1905 sur la laïcité, qui est en fait une loi de séparation, qui est une loi de protection, ça veut dire que la République, l'État protège la foi, tant que la foi ne veut pas dicter sa loi, pour reprendre le mot d'Aristide Briand. En fait, le ministre de l'Intérieur et des Cultes, on est dans une dimension de protection, parce que la société n'est pas neutre, bien sûr, comme l'avait rappelé le président de la République, mais l'État, la République, doit être neutre. C'est-à-dire que moi, je suis médecin hospitalier, je ne peux pas montrer quelconque, là vous m'avez présenté comme médecin musulman, à l'hôpital, je ne peux pas montrer un quelconque stigmate religieux, parce que j'ai une obligation de neutralité par rapport aux patients que je reçois, comme un policier ou un enseignant et autres, pour pas qu'ils puissent imaginer qu'il y a du favoritisme. Donc en fait, la laïcité bien comprise, c'est ça. La laïcité, ça veut pas dire que la République est contre les religions, bien au contraire. Ça veut dire qu'elle les protège.
Est-ce que, en ce qui concerne l'islam de France, c'est une religion qui souffre malgré tout des relations avec les pays d'où sont originaires justement les croyants de l'islam? Je pense à l'Algérie en particulier, avec actuellement de véritables tensions, et en particulier aussi au sujet de la formation des imams qui sont originaires d'Algérie. Il y a aussi cette histoire actuellement justement de visa pour permettre aux imams de venir en France pendant la période du Ramadan. Est-ce que l'islam souffre de cela en France?
J'ai envie de dire non, et de moins en moins, et c'est pas de la langue de bois. Moi, je suis pas un homme politique, je suis pas un diplomate, je suis un citoyen, et un citoyen engagé, point. Ce qui se passe, c'est... la réponse que je vais vous faire, elle est théologique, c'est-à-dire qu'en islam, on n'a pas de clergé au sens hiérarchique du terme. Il n'y a pas de pape dans l'islam sunnite tel qu'on l'a. L'imam, ça n'est pas un évêque ou un archevêque, c'est un primum inter pares, c'est quelqu'un qui est reconnu par le village comme lettré en religion, et c'est lui qui va diriger la prière. Celui qui dirige la prière, c'est celui qui est reconnu par ses pairs, P-A-I-R-S, comme étant le plus lettré. Donc, comment organiser une religion qui n'a pas de clergé? Je pourrais vous dire que...
Et il faut le faire. Est-ce qu'il faut organiser la religion pour qu'elle soit adaptée à notre culture, à notre société telle qu'elle existe en France? Est-ce que c'est important ou est-ce que c'est secondaire?
Notre culture, c'est notre culture commune. Oui. C'est-à-dire que le grand pari du Forif, du Forum de l'Islam de France, c'est de dire, c'est être humble et de partir des pratiques et pour pouvoir diriger des principes. Le professeur Harkoun, et une bibliothèque dans la bibliothèque de la rue Mouftar porte son nom, avait ce mot qui disait l'islam est politiquement catholique et théologiquement protestant. Il est politiquement catholique parce qu'il veut être une réunion de la Oumma, de la communauté des croyants. Il est théologiquement protestant parce qu'il y a autant d'islam que d'âme, finalement.
Il se libère, finalement, des contraintes hiérarchiques, et en même temps, c'est parce qu'il n'y a pas de contraintes hiérarchiques, parfois, que ça déborde.
J'ai pas de hiérarchie. Vous êtes chrétien, donc vous avez considéré que Jésus, fils de Marie, il est devenu Christ et Dieu fait chair, ce que je ne peux pas comprendre. Et donc, quand le chrétien dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est une expression d'immanence pour aller vers le un, vers cette transcendance. L'islam a une volonté d'unicité. Je ne vais pas vous faire le coup du concile de Nicée avec la Trinité et autres. L'islam a une logique de transcendance absolue, mais aller vers le Créateur simplement comme ça, c'est insuffisant. Je vais vers le un pour aller vers l'autre. Donc finalement, nous avons deux voies, pas différentes, mais distinctes, pour un même but. Le chrétien a l'immanence pour aller à la transcendance, le musulman tape la transcendance pour aller à l'immanence. Et donc, dans le forum de l'islam de France, c'est de dire comment ça se passe en pratique sur le terrain, quelles sont les personnes qui ont pu démontrer ou qui ont pu montrer leur intérêt à faire telle ou telle chose, comment elles s'organisent pour pouvoir avoir au mieux un dialogue cultuel avec les pouvoirs publics.
Pour guider aussi l'organisation de l'islam en France. Alors Bruno Retailleau, la semaine dernière, devant le Forif, a insisté sur la lutte contre l'islamisme. Moi, j'ai toujours cette question qui me traverse, finalement. Est-ce que les premières victimes de l'islamisme ne sont pas les musulmans eux-mêmes, même en France, en fait ?
En quantitatif, bien sûr. Il y a beaucoup plus de musulmans qui ont été tués par des désordres islamistes que d'autres religions. Mais vous savez, chaque religion a eu toutes les religions ont toutes eu leur part sombre. Toutes. Et ce qui est commun aux religions et même aux non-religieux, c'est la dimension de spiritualité. Donc je crois que une forêt, ça met 30 ans à pousser, ça met 30 minutes à brûler, quoi.
Est-ce que dans l'islam, il y a comme des garde-fous pour éviter ces extrémismes-là, ces dérives qui émanent malheureusement de l'islam ?
Toutes les religions ont eu ça, et c'est en ça que le groupe est très important. La personne un peu isolée, un peu seule, désocialisée, qui se radicalise toute seule sur Internet parce qu'elle a Sheikh Google ou l'imam Internet, religion, c'est religarer, c'est l'attention à l'autre qui permet de construire un projet commun. Et humblement, mais en pleine responsabilité, c'est ce qu'on essaie de faire au niveau du Forum de l'Islam de France. Être l'interlocuteur culturel des pouvoirs publics, bien sûr, mais être aussi une sorte de guide d'aide aux musulmans standards, bien sûr.
Sadek Belousif, merci d'être notre invité ce matin sur RCF et Radio Notre-Dame, membre du Forum de l'Islam de France. Vous êtes également professeur de médecine, spécialiste en anesthésie réanimation. Vous êtes une des voix de l'islam en France dans le débat sur la fin de vie, un sujet que vous connaissez éminemment, puisque vous êtes donc professeur de médecine à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Vous pratiquez l'anesthésie réanimation. Quel regard vous portez sur l'idée de François Bayrou de scinder le projet de loi en deux, les soins palliatifs d'un côté et l'aide à mourir de l'autre.
J'applaudis des deux mains. C'est une demande que nous avions faite à Madame Firmin Lobodeau lorsque nous avons été entendus par elle avec les autres responsables religieux en disant finalement pourquoi est-ce que vous voulez mélanger ce qui est immélangeable. Faites un projet dédié sur les soins palliatifs, l'accompagnement, et là vous aurez 100% des votes, et parce qu'on en a besoin, parce que plus du quart de départements en France n'ont pas d'accès aux soins palliatifs possibles. Donc faites cette première partie. Et puis laisser ouverte en deuxième partie de quinquennat, ce qui peut fâcher.
Je m'adresse là aux professeurs de médecine. Comment réagissent les médecins actuellement dans les services dans lesquels vous passez, justement? Comment est-ce que ça réagit à cette idée de François Bayrou de scinder en deux?
Elle est plutôt bienvenue, elle est plutôt bien vue. Maintenant, si on fait de la politique, si je suis militant pro-euthanasiste primaire, ça va me révulser parce que j'avais l'imagination que, tac, je pouvais cranter quelque chose. Nous avons en France une loi Claeys-Leonetti avec la sédation profonde continue maintenue jusqu'au décès, dans les rares cas de douleur et de souffrance intolérable. Et dans ces rares cas, à mon sens, la sédation apporte toutes les solution, parce qu'elle va permettre de dire, eh bien, si jamais tu souffres le martyr et que ça devient insupportable, à ce moment-là, je vais t'endormir pour que tu ne souffres pas. Et donc, c'est une loi qui va laisser mourir. C'est très différent qu'une euthanasie qui fait mourir. C'est très, très différent.
Est-ce que l'islam de France parle d'une seule voix sur ce sujet? Vous êtes la voix de l'islam de France sur ces questions de fin de vie. Est-ce qu'il y a un dialogue au sein même de la religion musulmane?
Nous avons un dialogue, effectivement. Il y a eu, je ne vais pas vous répondre comme ça, je vais répondre à l'échelon européen. Il y a eu une grande enquête pour savoir est-ce que la religion influence la prise en charge des patients agonisants, notamment sur la réanimation. Et on se rend compte que la religion du docteur a une influence. Quand on voit à l'échelon européen et qu'on voit les docteurs qui se déclarent catholiques, musulmans, protestants, juifs ou athées ou agnostiques, eh bien on voit qu'il y a quelques différences assez significatives sur la façon de laisser mourir ou pas.
et avec les autres religions. Vous êtes allé régulièrement à l'Assemblée nationale, au Sénat, pour être auditionné par les parlementaires sur cette loi sur la fin de vie. On a senti à la fois les religions unies contre la loi fin de vie et contre l'aide active à mourir. Est-ce que là aussi, vous parlez d'une seule voix ou est-ce qu'il y a des distinctions, des considérations théologiques qui vous font aborder la question différemment?
Il y a pu y avoir certaines nuances mises, par exemple, du côté protestant. Mais en fait, on se retrouve tous philosophiquement pour dire qu'il y a une différence entre une loi créance et une loi liberté. Si je prends un exemple qui n'a absolument rien à voir, en France, on a légalisé le mariage pour tous. C'est une possibilité, ça n'est pas pour autant une obligation. Le problème avec cette loi sur la fin de vie, c'est que si on met dans la tête du docteur et du soignant qu'il est là pour soigner les patients, mais qu'il peut aussi les tuer à leur demande, ça n'est pas qu'une loi liberté pour les quelques-uns qui demandent, ça peut être une répercussion sociale et sociétale terrible pour tous les autres.
Et ça
me fait peur.
À ce titre-là, vous vous sentez contraint, coincé, vous, comme médecin ?
Pas coincé.
Et comme croyant aussi ?
Pas coincé, ça me fait peur pour le plus démuni, pour le plus fragile, parce que lui, il a peur. C'est par exemple des éléments qui ont pu être montrés tout à fait aux États-Unis, où il y a une loi sur le suicide assisté et ou sur la pratique d'euthanasie. Et on voit très bien que selon les catégories socioprofessionnelles, chez les Africaines américaines, pour ne pas les nommer, il y a des différences extrêmement notables, avec parfois de véritables craintes exprimées de la part des patients.
Parce que justement, les personnes les plus pauvres n'auront pas nécessairement les moyens d'être accompagnées dans leur fin de vie, et donc il sera peut-être parfois plus facile d'accepter une aide active à mourir plutôt que de pousser le plus possible vers des soins palliatifs ?
Je le crains.
Vous le craignez.
Oui.
Le pape François, pour terminer, je voudrais qu'on parle du pape François. Je sais que vous l'admirez. Le pape François vit lui actuellement aussi l'épreuve de la maladie. Il est actuellement hospitalisé donc à l'hôpital Gemelli pour une pneumonie. Tous s'inquiètent de sa santé et de la suite des événements, même s'il semble aller mieux. Est-ce que vous avez une prière pour lui, vous les musulmans ?
Je l'adore, je ne vais pas dire c'est un saint homme. Vous savez, en islam, on ne va pas prier pour avoir le bac ou pour un autre, mais on va penser très très fort à lui. Je l'aime particulièrement parce que c'est un homme de dialogue et aussi de combat. C'est lui qui, en février 2019, est allé au Caire rencontrer le grand imam El Azhar pour promouvoir la fraternité et donc la paix, avec une déclinaison politique directe, parce qu'à la suite de ça, l'Assemblée Générale de l'ONU a déclaré tous les ans le 4 février comme journée mondiale de la fraternité.
La fraternité humaine, le pape François en était et en est toujours un ardent défenseur. Merci beaucoup à vous, Sadek Belousif, d'avoir été notre invité ce matin sur RCF et Radio Notre-Dame. Je rappelle que vous êtes membre du Forum de l'Islam de France, vous êtes une des voix de l'islam en France. Dans le débat sur la fin de vie, on sera heureux de vous retrouver à nouveau sur ce sujet, sur notre antenne. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Bonne journée et bon Ramadan à vous.
Merci. Alors.